C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Dans C'est ludique, aujourd'hui, je vous propose de gérer une compagnie navale qui va aller en Inde acheter des ressources pour les revendre ensuite en Europe. Mais ce n'est pas tout, hein, car vous avez des actions de cette compagnie et vous allez aussi pouvoir en acheter d'autres et en vendre. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi acheter des actions des autres compagnies et forcément, tout au long du jeu, bah, les actions vont fluctuer sur le marché et vous pourrez récupérer des dividendes. Voici East India Companies, le deuxième jeu de Pascal Ribot après Virtu, un jeu expert édité par Atalia que je vous propose de découvrir maintenant. Alors, direction les Indes. On va placer un grand plateau avec une carte où l'on retrouvera la Chine, l'Inde et les Indes orientales. Sur ce plateau, tout en haut, il y a la piste du marché des actions et en dessous, 5 personnages de la flotte qui vont vous aider dans vos actions. À droite du plateau principal, on va ajouter un plateau représentant l'Asie avec les différentes ressources, thé, épices, café et soie que l'on va pouvoir acheter. Et à gauche, un plateau Europe avec ces mêmes ressources que l'on va pouvoir revendre. Chaque joueur récupère un quai pour placer ses bateaux. Certains bateaux sont plus rapides et d'autres ont plus d'espace de stockage. Voilà, et bien vous êtes prêt à jouer à East India Companies. Mais comment on joue ? Il y a 5 phases. La première, on est sur une mécanique de placement d'ouvriers. C'est celle des agents. Au total, vous avez 3 meeples à placer, chacun à votre tour, sur les 5 agents du plateau. Gouverneur, négociant, investisseur, capitaine et armateur. C'est grâce à ces actions que vous pourrez par exemple devenir premier joueur, récupérer de l'argent, influencer le marché, payer moins cher certaines ressources, installer des comptoirs, acheter de nouvelles frégates ou encore augmenter votre quai pour accueillir de nouveaux bateaux. Tous les joueurs peuvent se placer sur le même agent. Mais dans ce cas, le premier arrivé vous fait de la place, ok, mais il faut lui donner une petite pièce. Certaines actions interviennent immédiatement et d'autres aux phases suivantes, mais tout est super bien indiqué sur le plateau. Deuxième phase, c'est celle de la bourse. À tour de rôle, chaque joueur va pouvoir acheter des actions. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez acheter vos propres actions ou celles des autres compagnies. Le marché des actions est primordial dans le jeu. Troisième phase, celle de la navigation. Avant toute chose, on va dévoiler les cartes des ressources en Inde. Alors au début de la partie, on aura déjà placé des dés indiquant le nombre de ressources possibles. Les cartes vont modifier les stocks. Ensuite, après avoir payé le coût de votre voyage, vous allez placer vos bateaux face cachée dans l'ordre d'initiative sur l'un des endroits de la carte, la Chine, les Indes et les Indes orientales. Si vous pouvez récupérer du thé partout, ce n'est pas le cas des autres ressources. Une fois les bateaux placés, on va regarder dans chaque endroit le bateau qui va le plus vite. C'est le joueur propriétaire de celui-ci qui pourra commencer à charger les marchandises. Justement, passons à la phase 4, celle du chargement. Chaque joueur, selon la place de stockage dans leur frégate, va pouvoir acheter plus ou moins de marchandises. Et forcément, les premiers arrivés, les premiers servis. Les prix vont augmenter au fur et à mesure que le stock diminue. Certains payeront 1 le thé et d'autres 3. Ensuite, direction l'Europe pour la dernière phase, celle de la négoce. Là aussi, on va dévoiler une carte ressources. Vous allez vendre vos marchandises. Et là, c'est pareil. Les premiers vendeurs récupéreront plus d'argent car le prix va baisser s'il y en a trop. C'est le principe de l'offre et de la demande. Et comme à toutes les phases, l'initiative est importante. Le bateau le plus rapide décharge en premier, mais s'il y a des égalités, c'est l'initiative qui prime. Et c'est la fin de la période. On va regarder selon un tableau les performances de chaque compagnie pour voir qui va récupérer l'initiative pour la prochaine manche. On regarde aussi la variation des titres selon l'argent récupéré lors de la revente des marchandises et selon notre plateau personnel. On va modifier notre pion sur la bourse, autant dire qu'il peut avancer, mais aussi il peut reculer. À chaque début de période, y en a 5, on va placer nos meeples sur la tête du personnage. Pour le prochain tour, on ne pourra les poser que sur les personnages adjacents. Ça va donc bloquer quelques possibilités. Au niveau du calcul des points, c'est simple, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Et puis donc c'est aussi celui qui a le plus de titres en bourse. East India Companies est certainement depuis bien longtemps le meilleur jeu de fluctuation de marché. Un jeu simple finalement au niveau des règles, mais alors avec une grande profondeur. Et là je ne parle pas de celle de l'ouf. Ce week-end ludique continue avec Morgane du carnet des geekeries. Elle va nous parler d'un autre jeu d'Atalia que je vous laisse découvrir d'ici à 3 minutes. C'est juste après ça. Allez, restez là.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le vendredi, on retrouve Morgane du carnet des geekeries. Salut Morgane.
Salut.
Et c'est le week-end ludique, parce que le vendredi, c'est le week-end tout simplement. Donc ce week-end, on va jouer. Alors j'ai présenté East India Companies, qui est le nouveau jeu de chez Atalia. Et toi, je crois que tu as un autre jeu d'Atalia à me parler.
Voilà, on reste du coup chez Atalia pour ce week-end ludique. Et je vous propose de découvrir Raja of the Gange, un jeu d'Inka et Marcus Brand, illustré par Denis Lawson. Marcus et Inka Brand qu'on connaît bien avec la saga Exit chez Yellow, du coup.
Ouais.
C'est eux qui ont fait tous ces petits jeux dans... d'escape game. Du coup, dans Raja of the Gange, vous incarnez un seigneur local, un Raja ou un Ranis, et vous allez vouloir faire de votre province la plus prestigieuse possible. Pour ça, il vous faudra accumuler gloire et argent afin de tenter de l'emporter. On est sur du jeu de gestion qui mélange une mécanique de dés et de poste d'ouvrier. En fait, en début de partie, chaque joueur va partir avec 3 ouvriers, mais pourra en débloquer d'autres par la suite. Et ce sont ces ouvriers-là qui vont permettre de réaliser les actions tout au long de la partie. Sur le plateau principal, on va retrouver plusieurs zones et chacune d'entre elles aura un coût en argent ou en dés. En début de partie, chaque joueur va partir avec un dé de chaque couleur, mais par la suite, il faudra les récupérer sur le plateau principal pour en avoir devant soi, sachant que du coup, c'est une monnaie d'échange pour les actions. Ouais. Donc en fait, à chaque tour, on va placer un de nos ouvriers sur le plateau principal et on activera la zone concernée. On va avoir les carrières qui vont nous permettre de construire sur notre plateau personnel qu'on aura devant soi. Ce plateau personnel, il va permettre de récupérer des bonus si on arrive à relier les différents bords des plateaux en construisant des routes, des temples, et vous allez même pouvoir accumuler des marchandises dessus. On aura également le marché pour récupérer de l'argent en fonction des marchandises qui seront sur notre plateau personnel, le palais qui va permettre de récupérer des avantages indispensables pendant la partie, et le port pour avancer le bateau le long du fleuve, parce que vous aurez un petit bateau qui va pouvoir avancer tout au long du grand plateau principal, ouais. Et ça va aussi permettre de récupérer des bonus. Ça sera, en fait, tout sera un peu lié dans les actions et chacune vous aidera dans votre quête de gloire et d'argent. Pas d'inquiétude pour le hasard des dés, même si vous lancez vous-même votre dé pour connaître sa valeur lorsque vous en récupérez un. On a le karma qui nous permet de retourner un dé sur son côté opposé. Ça peut parfois être bien utile pour réaliser l'action voulue parce que selon les zones, tu vas avoir des zones qui vont te demander une valeur 1 ou une valeur 2 et puis d'autres qui vont te demander 6. Donc ça permet de contrebalancer un peu ce hasard et du coup d'équilibrer le jeu comme il faut. Les tours, ils vont s'enchaîner ainsi avec de plus en plus de bonus qui vont s'accumuler et des marqueurs de gloire et d'argent qui vont avancer petit à petit sur leurs pistes respectives. Et en fait, les deux vont partir à l'opposé et la fin de la partie, elle sera annoncée quand les deux marqueurs d'un joueur vont se croiser.
D'accord. Okay.
Voilà, donc ça va se croiser. Donc du coup, à la fin, on comptera l'écart entre les deux marqueurs, qui peut être du coup positif ou négatif. En fait, dans ce jeu, il y a un côté original qui m'avait bien convaincu, parce qu'on a la gestion des dés pour pouvoir utiliser les différentes actions du plateau, ouais. Les pistes gloire et argent qui partent de deux directions différentes pour se croiser, le fait que tout en fait soit lié indirectement, et c'est un mélange de tout ça qui fait que ça donne un jeu qui est stratégique mais qui reste accessible quand même. On a un plateau qui est hyper lisible niveau iconographie, donc on se perd pas pendant des heures à retourner dans les règles pour être sûr de ce qu'on fait. Et puis ce croisement de pistes, en fait, c'est, il n'y a pas de tour limité. Du coup, il n'y a pas de nombre de tours ou de nombre de manches. Et ça permet de gérer plus facilement aussi nos actions pour ralentir le tempo si on sent qu'on ne va pas gagner si on croise maintenant.
Ouais.
Donc voilà, c'est quand même un système que j'aime beaucoup dans les jeux. C'est un jeu qui est bien pour une transition entre les jeux familiaux et experts. Et du coup, bah, avec les nombreuses possibilités qu'il y a sur le plateau, on perd le hasard des dés. Donc c'est vrai que ça pouvait en frustrer certains d'avoir ce hasard des dés qui peut jouer dans un gros jeu. Il y a un côté stratégique mélangé à l'opportunisme parce que les cases, elles sont limitées en placement.
Ouais.
Donc on essaiera aussi d'aller rapidement sur ce qui nous intéresse. Et en fait, on a un ensemble qui est fluide. On a une course au premier qui va croiser ces deux marqueurs pour tenter de l'emporter. Et puis, mention spéciale à l'édition du jeu parce qu'on a un matériel hyper coloré qui est bien dans le thème, qui donne vraiment envie de jouer. Enfin voilà, ils ont vraiment respecté l'ensemble du jeu. Il y a aussi 2 mini-extensions qui vont permettre de rajouter plus de rejouabilité dans le jeu. Et si la version plateau gros format vous fait un peu peur, il y a une version Roll and Write qui existe.
D'accord.
Du coup, avec Raja of the Gange.
J'avais vu une version Roll and Write.
C'est ça, The Dice Charmers, du coup, qui reprend les ingrédients de tout ce qui a fait la force du jeu principal, avec les pistes croisées notamment. Mais on rajoute en plus des combos, on a un rythme de partie qui va augmenter de plus en plus et qui donne une tension qui est vraiment agréable à jouer. Dans cette version, en fait, on va avoir 8 dés, il y en a 2 de chaque couleur. Et en fait, chaque couleur aura sa caractéristique. Donc les verts, c'est pour construire des routes. Les violets, je crois que c'est pour bénéficier de l'aide d'un Maharaja. Et en fait, le petit twist, c'est que le premier joueur va choisir un dé. Et il va condamner la couleur, en fait. Donc, il va récupérer les 2 dés, même s'il va en jouer qu'un seul. Mais les autres joueurs ne pourront pas choisir la même couleur que lui. C'est vraiment tout ce qui est dans le gros jeu de base qui est retrouvé dans ce Roll and Write. On retrouve une version quand même plus accessible. Enfin, moi, il fait partie de mes Roll and Write préférés, du coup, parce que
d'accord,
j'adore
jouer
à celui-là. Ouais, c'est vraiment, on a
je
les chances
le
de jeu.
Et
voilà. Ben voilà, va falloir.
Ben oui, non, mais là, tu vois. Tu m'as donné envie de découvrir ce jeu. Alors, c'est l'année 2017, hein, c'est un jeu qui est quand même assez ancien. Il est toujours édité ?
Oui, il a été réédité en 2020.
D'accord.
Du coup, chez Atalia, donc il est toujours disponible. Et puis, la version Dice Charmer est sortie après, je crois, si je dis pas de bêtises, la version Roll and White. Mais ouais. La version Roll and White, c'est une bonne base pour rentrer dedans. Après, c'est vrai que quand t'as joué au jeu principal et que tu tombes dans le Roll and White après, ça va. Enfin, voilà, tu retrouves quand même
tes
bases. Quoi. Mais du coup, c'est une bonne entrée en matière avec cette version qui elle est assez rapide à jouer en une demi-heure.
D'accord.
Contrairement au jeu de plateau qui joue plus en une heure. Mais du coup, voilà, ça fait vraiment. La variante est vraiment sympa pour une adaptation d'un gros jeu de plateau et ils ont fait une belle proposition dessus.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Morgane.
Avec plaisir.
Eh bien, on se retrouve pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je prends ma diligence pour aller du côté du Colorado. Hein.
C'est ça.
Voilà. Donc, c'est une spéciale la semaine prochaine, Colorado. Tu as joué à Colorado ?
Oui.
Et alors ?
J'aime beaucoup ce jeu. Et mais je te laisserai en parler tranquillement la semaine prochaine, parce qu'il est vraiment très sympa.
Ouais, 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 on en parlera la semaine prochaine avec Pierre comme invité, Pierre de chez Silets, qui sera avec moi. Merci Morgane, et on se retrouve dans 15 jours.
Avec plaisir.
Et alors, dans 15 jours, c'est la semaine de l'amour, hein, c'est la semaine de la Saint-Valentin.
Ça.
Salut Morgane.
Salut, bon week-end.